alimentaire. On confisque au peuple la possibilité d'être autonome dans ce geste premier qui est de se nourrir. Déjà, l'agrochimie nous a privés de boire de l'eau pure. Là, elle est en train de je veux dire, la semence, c'est quand même de l'eau, une graine, et ça marche tout seul, quoi. Et ben, ils arrivent à s'accaparer ça et à se l'approprier de façon tout à fait éhontée, dégueulasse. Enfin, bon, vraiment très. Tout à l'heure, ça devient que du lucratif, quoi. Je veux dire, l'intervenant précédent disait à but non lucratif. Là, c'est du lucratif sans but. Voilà.
Sinon, parce que là, tu es obligé de terminer.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous rappeler l'endroit?
Alors, nous sommes donc au 21 Terre, rue Voltaire, à Paris.
Métro rue des Boulets, ligne 9.
Parce que moi, je ne le connais pas encore. Nous sommes arrivés à 13h. La France peut prendre un moratoire. Elle a voté, nos ministres de l'Environnement en France ont voté pour que l'Autriche et la Hongrie puissent avoir un moratoire sur leur terrain, sur leur pays, dans leur pays. Nous pouvons exactement faire la même chose puisque l'article 23 de la loi européenne concernant les OGM nous l'autorise. Donc pour réclamer ça auprès de nos gouvernants qui sont des pornographes de la démocratie parce qu'ils refusent absolument d'entendre la majorité du peuple, il va falloir qu'ils s'y fassent. Ils n'ont pas un travail, c'est un mandat. Vous pouvez aller sur www.moratoireogm.fr, moratoire avec un E, donc moratoireogm.fr, tout en minuscules, tout attaché, et vous pouvez signer l'appel d'Orléans, qui est un petit texte qui réclame à nos élus, il faut surtout pas qu'ils oublient que ce sont des élus, de signer ce moratoire. Vous êtes déjà plus de 30 000 à le faire. Faites tourner sur vos adresses mail ce lien. Il faut absolument qu'on fasse un maximum de signatures pour les déposer le plus rapidement possible. Et pour nous joindre, c'est le 06 18 23 27 11. Nous vous accueillerons au CICP.
21 Terre Voltaire. Le métro, c'est rue des Boulets. Et c'est la ligne 9. Sinon, il y a une manifestation cet après-midi à Place de la République. Ça part Place de la République à 14h30, c'est le samedi 24 mars, c'est-à-dire aujourd'hui, contre les violences faites aux femmes. Et ce soir, les 20 ans de femmes libres. Alors, c'est ce soir à partir de 18h, à l'espace Louise Michel, 42 Terre rue des Cascades, 75 020 Paris, métro Pyrénées. Voilà.
On rappelle donc aussi la manif de Peugeot qui est... Oui. Partira de Barbès à 14h pour aller à République. Donc, ça va peut-être un petit peu se croiser. Je vous rappelle aussi une lutte qui n'arrête pas de continuer.
Ah, c'est par rapport à Amandine sur Virgin. Mm-hmm. Oui. Vas-y. Tous les vendredis de 18h à 20h au métro.
Au Grand Boulevard, devant le Virgin des Grands Boulevards, pour toujours rappeler à la direction de...
La réintégration
de Virgin. Alors, un élément nouveau, vous serez surpris de voir des contre-manifestants qui disent « oui à la sauvegarde de nos emplois, nos boycotts de Virgin » et qui diraient que, comme Laurent de Gousset défend... Alors, ça c'est un peu puant. Il défendrait effectivement Amandine que sous prétexte qu'ils se seraient mariés. En oubliant de rappeler qu'avant que Laurent a défendu les stockistes, il a défendu aussi Cédric Odorowski. Il n'était pas marié avec eux. Ou alors, Laurent était un pervers polymorphe et polygame. Bon. Et ils disent aussi que c'est à cause de ça qu'ils n'auront pas une prime. On rappellera que cette prime, ils ne l'ont jamais eue. Que ça fait baisser le chiffre d'affaires. On rappellera que le Virgin des Grands Boulevards perd toujours de l'argent depuis sa création. Mais maintenant, effectivement, c'est plus la cause de Monsieur Marion, qui est un directeur de Virgin et qui est un mauvais gestionnaire. Mais maintenant, c'est de la faute à Laurent de Gousset parce qu'il défendrait les intérêts de sa petite famille. Bon, et non pas le droit du travail, alors que nous, on vous dit, c'est complètement le contraire. Maintenant, c'est bien simple. Non seulement, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la peste, mais en plus, là, c'est eux qui ont filé la peste. La rage, on dit, c'est eux qui ont filé la rage. Et c'est de la faute... Laurent, alors pour défendre le droit du travail et cette espèce de justice sociale qui déraille, rendez-vous tous les vendredis soirs à 18h sur les Grands Boulevards, métro Grand Boulevard devant le Virgin Megastore.
Merci, à la semaine prochaine.
On nous terrorise pour nous mettre les uns contre les autres. Français contre étrangers, immigrés. immigrés réguliers contre irréguliers. On nous terrorise en obligeant nombre d'entre nous à émigrer en quête de conditions de vie moins odieuses. On nous terrorise en obligeant nombre d'entre nous à la clandestinité. Avec les flics sur le dos et la peur des expulsions, l'État et les patrons poussent des milliers d'individus dans l'ombre en les rendant encore plus dociles à l'exploitation. On nous terrorise avec le chantage du travail salarié. Soit tu te vends à un patron, soit tu crèves de faim. On nous terrorise avec l'image de l'étranger, barbare et intégriste, pour nous faire accepter plus de restrictions, plus de contrôle, plus de précarité. Ou bien pour nous faire aimer une identité nationale, fausse et vide. Si le capitalisme ne respecte pas de frontières, pourquoi les exploiter devraient-ils le faire ? On nous terrorise avec les flics dans les quartiers, avec des rafles policières. La criminalité, c'est le prétexte. Le véritable objectif, c'est de faire baisser la tête à tous. On nous terrorise avec la prison, les expulsions, les camps de rétention. Plus les pauvres se haïssent, plus les riches s'engraissent. On nous terrorise en nous faisant croire que les terroristes sont ceux qui luttent contre l'État et les patrons. Et non pas ceux qui bombardent des populations entières, colonisent les territoires en rasant les maisons avec les bulldozers. Il est temps que la peur change de camp. Il est temps que de la haine entre les races, on passe à la solidarité de classe, à la guerre des exploités contre les exploiteurs. Il est temps de se lever et de se mettre en marche. Yves Perrin, Marseille, 4 janvier 2004.
En poursuivant ainsi la réflexion, on finira par l'essentiel patron. Il ne supporte pas la concurrence et se targue d'être dans son domaine. Une épée, un phare, une référence de l'extrait pur de ressources humaines. Sans moi, dit-il, tout deviendrait bancal. L'édifice risquerait de chuter. À l'ordre branlant, je fournis la cale et l'indispensable inutilité. Article 1, le chef ne sert à rien. Le cabinet, il faut l'éliminer. En poursuivant ainsi la réflexion, on finira par l'essentiel patron. Gens de labeur, salariés, tâcherons. À qui l'on a martelé le principe qui dit pour que le monde tourne rond, il faut suer à s'en sortir les tripes. Rompons avec ces tristes habitudes. Monsieur Gilou nous montre le chemin. Noyons l'exemple par la multitude et tous unis ne servons plus à rien. Article 1, nous ne servons à rien. Nota bene, allons nous promener. Au fond des bois, pendant notre excursion, arrangeons-nous pour perdre le patron.
Ah, un accident de chasse!
Ça a du bon, la tradition.
J'entends déjà crier à l'utopie, des hordes hurlantes aboyer au chaos. On me prédit la geôle, même pire. On me promet de me laisser K.O. Qu'importe d'autres viendront après moi. Aussi, je vous invite en attendant. Ensemble, reprenons à pleine voix. Monsieur Gilou n'en a plus pour longtemps. Article 1, le chef ne sert à rien. Nota bene, il faut l'éliminer. Et quand le patron se sera fait l'affaire, on ira s'occuper des actionnaires.
Monsieur Gilou est chef du personnel. Ou d'autres choses, on ne sait pas très bien. Il est doué d'un talent exceptionnel. Paraître utile, lui qui ne sert à rien.
À rien, à rien, à rien.
Thank you. Chronique Rebelle aujourd'hui avec la revue Réfraction, le numéro 17, et un thème, pouvoir et conflictualité. Et avec deux invités, Eduardo Colombo et Annick Stevens. Revenir aux formes politiques du pouvoir, c'est aussi analyser ses origines et le ou les processus mis en forme pour l'exercer, l'imposer et y résister. Partant de l'époque actuelle et de ce constat, l'apathie politique des masses devient le fond sur lequel se détachent toutes les figures de l'événementiel éphémère, spectaculaire, éclatant de trivialité. Eduardo Colombo, dans son article « Les formes politiques du pouvoir », remonte un fil d'Ariane de la transmission des pouvoirs et des luttes. Ce qui renvoie à des questions essentielles. L'apathie politique des masses est-elle une fatalité ? Quelle place tient la lutte, l'imaginaire utopique et révolutionnaire, dans une société libérale qui est sans cesse présentée comme la panacée démocratique incontournable? Car après avoir lancé puis imposé la notion de la fin des idéologies, puis la fin de l'histoire, voici à présent le choc des civilisations, dernier gimmick de la pensée unique, dernière trouvaille de la propagande largement médiatisée et destinée à, comme on dit, diviser pour mieux régner, et surtout se ménager des boucs émissaires, histoire d'expliquer le dysfonctionnement et les échecs de sociétés dépourvues de vision à moyen et long terme. Il est vrai que les élites, pour gouverner dans une telle démocratie, doivent compter avec le conformisme et même avec l'apathie des masses. Pour cela, notre époque est prolixe en outils élaborés de propagande à laquelle il est difficile d'échapper. Si la dictature c'est « ferme ta gueule » et la démocratie cause toujours, quelles sont les résistances dans les différentes figures de démocratie ? Les conflits sociaux fissurent toujours les légitimations du pouvoir en place. Alors, comment renouer avec les traditions de lutte ? Comment s'inscrire dans un processus de remise en question des pouvoirs multiformes en place ? Comment dépasser, fissurer, le constat de Joseph Desjacques dans « Abat les chefs » mis en exergue de l'article d'Eduardo Colombo ? Je cite « L'autorité a régné si longtemps sur les hommes, et les femmes donc, j'ajoute. Elle a tellement pris possession de l'humanité qu'elle a laissé partout garnison dans son esprit. » Fin de citation. Comment donc se délier de cette autorité, ce qui nous amène à poser la question avec Annick Stevens, comment reprendre en main le pouvoir politique ?
La vie s'écoule, la vie s'enfuit, les jours défilent au pas de l'ennui. Parti des rouges, parti des gris, nos révolutions sont trahies. Parti des rouges, parti des gris, nos révolutions sont trahies. Le travail tue, le travail paie, le temps s'achète au supermarché. Le temps payé ne revient plus, la jeunesse meurt de temps perdu. Le temps payé ne revient plus, la jeunesse meurt de temps perdu. Les yeux faits pour l'amour d'aimer sont le reflet d'un monde d'objets, sans rêve et sans réalité. Aux images, nous sommes condamnés, sans rêve et sans réalité. Aux images, nous sommes condamnés. Les fusillés, les affamés viennent vers nous du fond du passé. rien n'a changé, mais tout commence et va mûrir dans la violence. Rien n'a changé, mais tout commence et va mûrir dans la violence. Brûler repère de curé, ni de marchand, de policier. Au vent qui sème la tempête, se récolte les jours de fête. Au vent qui sème la tempête, se récolte les jours de fête. Les fusils sur nous dirigés, contre les chefs vont se retourner. Plus de dirigeants, plus d'État, pour profiter de nos combats. Plus de dirigeants, plus d'État, pour profiter de nos combats. Plus de dirigeants, plus d'État, pour profiter de nos combats.
C'était Francis Lemonnier, La vie s'écoule, la vie s'enfuit. Vous êtes à l'écoute des Chroniques Rebelles de Radio Libertaire 89.4 et pour nous joindre au téléphone pendant les pauses musicales 01 43 71 89 40.
Voilà, et donc nous parlons avec Annick Stevens et Eduardo Colombo du dernier numéro de Réfraction, Pouvoir et conflictualité. Et il y a un sous-titre qui est très important, ça, il faut le dire aussi, c'est Le politique, le sujet et l'action, lutte et révolte d'aujourd'hui. Ce qui fait un petit peu, disons, le panorama un peu plus large de tout ce qu'on peut trouver dans ce numéro. Alors moi j'ai envie de dire un petit peu comme j'ai terminé mon chapeau, Annick, c'est un peu, ton article c'est comment reprendre en main le pouvoir politique. Alors, j'ai presque envie de demander, mais qu'est-ce que le pouvoir politique ?
Voilà, exactement. Et c'est pour ça qu'on peut voir, au fond, deux parties à ce numéro. Une partie qui est d'abord centrée sur la question, mais c'est quoi le pouvoir ? Dans quelle mesure est-ce qu'on peut revendiquer un pouvoir ? Et puis, c'est quoi le politique, par opposition au social, par exemple ? Quelle est sa spécificité ? Et donc, mon article viendrait plutôt, une fois qu'on a établi qu'il y avait bien un certain pouvoir qu'il fallait assumer en termes de capacité d'agir, etc., qu'il y avait bien une sphère politique qu'il fallait conserver, qui était la sphère d'auto-institution, de tous les rapports collectifs, et que donc elle était nécessaire. Une fois qu'on a admis ça, bon, alors maintenant, on en est totalement dépossédé dans des sociétés oligarchiques. Donc, comment le récupérer et peut-être se servir alors d'expériences qui sont réalisées ailleurs, surtout en Amérique latine. Je pense que c'est vraiment, pour le moment, le laboratoire de ce type de reprise en main. Bon, un peu comparer ces expériences pour voir comment ici, en Europe, on pourrait essayer de faire pareil, étant donné que la situation est différente, évidemment.
Et un point très important, puisque ça, tu l'établis tout de suite au début de ton article, c'est-à-dire, tu parles de pouvoir-capacité et de pouvoir-domination. Et donc, tu mets bien ces choses-là, tu les soulignes bien.
Voilà, évidemment, c'est une vieille distinction. Et d'ailleurs, je reprends une citation que Eduardo a faite dans un numéro précédent. C'est une distinction que les anarchistes font depuis longtemps, en fait, mais qui est souvent ignorée, malgré qu'on la répète régulièrement. Et donc, au fond, le noyau de ce numéro est parti justement de la question, est-ce que des nouvelles pensées à propos du pouvoir changent quelque chose pour notre action ? Est-ce que ça modifie complètement notre rapport à la lutte ? Est-ce que ça nous oblige à modifier nos projets, l'ennemi qu'on vise, contre lequel on lutte, etc.
Et la vision, voilà. D'une certaine manière aussi.
C'est vrai. Et là, bon, c'est vrai que, ça, que ce qui motivait surtout cette mise en question, c'est l'engouement pour la théorie du pouvoir de Foucault, hein, l'engouement dans beaucoup de milieux militants ou intellectuels en général, et pour lequel nous étions quand même quelques-uns à nous demander si, au contraire, c'était pas quelque chose qui paralysait l'action, en réalité, cette nouvelle théorie du pouvoir. Et donc, c'est surtout Eduardo qui a travaillé sur l'évaluation de cette théorie par rapport à celle qui était plus classiquement la théorie anarchiste, par rapport au pouvoir. Donc, y compris en maintenant comme évidente la distinction entre domination et pouvoir-capacité. Hein, ça, c'est du basique. Et alors, bon, il y a plusieurs autres articles qui s'articulent autour de cette question. Celui de Normande Baillargeon, qui revient sur l'échange entre Chomsky et Foucault. Donc, c'était une émission de radio qui avait eu lieu dans les années 60, si je me souviens bien. Je ne sais plus l'exact...
Laquelle. 71, tu dis.
Voilà, 71. Où Chomsky défendait évidemment plutôt la théorie classique, hein, que pour toute action, il faut un sujet de l'action, il faut un but. C'est-à-dire que si on veut renverser une situation qui paraît inacceptable, mais il faut savoir au nom de quoi elle est inacceptable, c'est-à-dire par quoi est-ce qu'on voudrait bien la remplacer. Et tout ça avait l'air d'être complètement ruiné par Foucault, qui en face réaffirmait en fait des positions au départ philosophiques, hein, selon lesquelles le pouvoir était simplement immédiatement des relations inter-individus, était répandu partout et donc donnait l'impression que finalement il n'y avait plus besoin de lutter contre les formes de pouvoir, ou que c'était, ou en tout cas qu'il fallait complètement revoir... revoir les distinctions entre le pouvoir qu'on acceptait et celui qu'on n'acceptait pas. Mais surtout, on avait Baillargeon aussi insiste avec Chomsky sur la nécessité de poser qui agit, pourquoi, avec quelle motivation, quelle est la motivation pour laquelle on lutte finalement. Mmh. Et on avait l'impression qu'il n'y avait plus de motivation, évidemment, si tout est partout et que c'est très bien comme ça.
Si c'est naturel, entre guillemets.
Voilà, c'est ça. Si ça fait même partie de l'intersubjectivité, c'est nécessairement dans les relations intersubjectives. Donc, contre quoi lutter. Enfin, donc, il y a une sorte de... et de fait, on remarque que les Foucauldiens actuels ne sont pas très militants en général. Hein, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas militants comme Foucault l'était. Avec tout le problème du rapport entre sa théorie et sa pratique, que Eduardo va peut-être évoquer aussi. Alors, il y a aussi, toujours dans ce groupe, dans ce groupe-là d'articles, un article de Salvo Vaccaro, Le double paradigme du pouvoir, qui s'inscrit tout à fait dans la ligne de Foucault, hein, donc qui vraiment revendique ce nouveau paradigme comme remplaçant un paradigme qui était obsolète, hein, qui ne doit plus servir. Donc, voilà, c'est un numéro qui laisse la place aussi à cette expression-là. Et Thomas Ibáñez, dans Les clairs obscurs de la nouvelle donne, s'inscrit du même côté aussi, en prenant même pour acquis qu'on n'est plus dans la situation révolutionnaire passée, qui dominait encore dans l'après-68, et qu'on s'est trouvé maintenant dans une acceptation générale dans le monde militant, qu'on n'attend plus la révolution, qu'on n'espère plus renverser le système capitaliste libéral, etc. Que tout ce qu'on peut faire, c'est lutter localement contre des petites choses, essayer de produire des petites alternatives de vie ponctuelles, locales.
Aménager, quoi.
Aménager ou dessiner des lignes de fuite, hein, comme ça marche bien dans le monde intellectuel, hein, de se référer à la ligne de fuite, comme... Au fond, ça veut dire créer des petites zones temporairement libérées et ne plus essayer d'avoir ce projet global ou ne plus au moins essayer d'y avancer par étapes, ne fût-ce que l'avoir comme un but ultime, même si on sait bien qu'effectivement, il ne se fera pas en un jour. Voilà, donc lui, il va dans le même sens, dans le sens de dire, voilà, on est passé à une autre époque et maintenant, tout ce qu'on doit faire, c'est lutter sans illusion, lutter pour la lutte elle-même. Pour ce qu'on y trouve immédiatement, ici et maintenant. Voilà, c'est...
Eduardo, vas-y. Oui,
je n'ai... Permets que j'intervienne un peu. C'est pour dire que dans les numéros, les articles qui présentent des positions différentes sont faits par des gens qui ont ces positions-là. C'est-à-dire que les argumentations sont des argumentations des gens qui croient en un type de position particulière. Nous, ici, pour les présenter, nous sommes deux, Annick et moi, qui sommes dans une seule de ces positions.
On avait cru comprendre.
Non, mais c'est important. Pour
c'est important de le dire, absolument.
Que la revue prétend que les articles ont une valeur par soi-même. Évidemment, je ferai la même critique, surtout sur l'article de Thomas Ibáñez, dans lequel il présente les choses qu'il appelle la nouvelle donne, comme si la vitesse de changement de notre société actuelle et l'obsolète du projet révolutionnaire, c'est une chose définitive qui nous met dans une autre situation, comme s'il y aurait une rupture épistémologique. Bon, je crois que cette position n'est pas fondée. Moi, je le crois. Thomas croit que oui. Et c'est là, peut-être, ce qui nous ramène à une position intéressante dans la discussion de Baillargeon sur le fondationalisme et l'antifondationalisme. C'est-à-dire de quelle façon il peut être justifié la croyance. Que ça, c'est un problème philosophique qui échappe d'une certaine manière dans les numéros, mais qui est présent un peu partout dans les articles à discuter. Si je reviens un peu sur le problème du pouvoir, il y a une chose qui m'intéresse particulièrement dans mon article, c'est qu'à partir de la non-différenciation des de différentes conceptualisations qui entrent dans le mot pouvoir, si on met dans le pouvoir aussi bien la domination que les pratiques coopératives, si on met dans le pouvoir tout type d'interaction entre les sujets humains, toute relation de pouvoir, c'est une relation humaine, et toute relation humaine, c'est une relation de pouvoir. À ce moment-là, les conséquences politiques sont dures à tirer parce que nous amènent dans une position dans laquelle les sujets de l'acte, c'est-à-dire l'agent de l'action, disparaît, en tendance à ce qu'on dit l'élision du sujet. Mais l'élision, il faut le prendre dans le sens premier du mot, c'est-à-dire comme la lettre et l'idée dans la phrase. C'est-à-dire il y a quelque chose qui est là, mais qui personne ne le voit. Il disparaît dans le discours. Et le sujet et l'idée, c'est quelque chose qui est directement lié au problème du pouvoir, parce que si c'est l'existence sociale qui agissent par soi-même en produisant des effets collectifs, si l'État, par exemple, c'est une conséquence d'une certaine stratégie de relation globale de pouvoir dans la société, il n'y a personne qui est responsable de lutter contre lui ou de le maintenir. C'est-à-dire que ça échappe à la responsabilité globale. Mais ce que je voulais dire en très peu de mots, parce que pour moi c'est la situation de base, et que j'essaie d'expliquer pourquoi l'intérêt de ce type de théorie, comme les théories postmodernes en général, sont liées à quelque chose que j'essaie de définir dans mon article, qui est la suivante. Pour donner un exemple, à l'époque du XVIIe siècle, où il naît toutes les théories actuelles de l'État, l'idée d'un pouvoir patriarcal était acceptée pour tout le monde, parce que c'est la base sur laquelle on pensait, l'épistémé de l'époque, c'est-à-dire les relations de connaissances de base, occultes, que personne n'y pense, mais qui sont là, était l'élément sur lequel on pouvait dire quelque chose. C'est-à-dire que énoncer une proposition partait de la base d'une connaissance acceptée. Aussi bien Hobbes que Filmer, que Wittgenstein, par exemple, il parlait de la Bible. Tout le monde parlait de la Bible. C'est-à-dire la base était là. Après, on pourrait tirer des conséquences différentes.
Oui, c'est-à-dire que c'était absolument pas remis en question.
C'est-à-dire que la théorie de pouvoir la base était crédible parce qu'il partait de ces positions-là. Bon, nous, aujourd'hui, nous sommes dans une position que j'appelle de la modernité tardive, dans laquelle tous ces types de choses sont disparues. Les politiques ont une autonomie en soi-même et doivent être justifiées par soi-même. À ce moment-là, l'influence du néolibéralisme en général a déterminé que le socle de l'énonciation part de cette idée de l'individu privatisé. Et à partir de là, les théories du pouvoir sont crédibles parce qu'ils vont dans le sens de ce que le libéralisme a produit comme théorie globale de la société, c'est-à-dire une théorie pour laquelle l'apathie politique est la base de l'action, c'est-à-dire rien, la ataraxie, le non-mouvement, et en même temps, le consensus, c'est-à-dire la disparition du conflit central de la société, des conflits entre dominants et dominés, entre exploiteurs et exploités. C'est-à-dire que ces dimensions du libéralisme font que les théories qui se basent ou qui partent de ça ont une audience générale, parce que c'est entendu comme quelque chose que tout le monde sait que c'est comme ça. C'est-à-dire que
oui, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est complètement incontournable. C'est naturel, c'est comme ça. Naturel, il n'y a pas autre chose. Il n'y a plus d'alternative.
C'est comme ça. Comme disait Lavoisier, les individus croient que c'est naturel la société qu'ils trouvent à la naissance. Et ils le vivent comme si c'était comme ça. Et je pense que c'est important de comprendre l'influence de certains types de théories, c'est-à-dire la croyance généralisée sur certaines propositions de base, en fonction de cette apathie. Je dirais un seul mot avant de finir. Je pense que cette apathie doit être aussi comprise en fonction de l'expérience vécue du siècle dernier. Les expériences révolutionnaires ont périclité aussi, parce qu'après le totalitarisme, toutes les insurrections ouvrières ont été noyées dans le sang. et le type de massacre qu'a connu le XXe siècle a produit, je pense que c'est un facteur qu'habituellement on ne prend pas en considération, mais qui est l'expérience des générations, c'est ce type de souffrance générale dans laquelle l'individu se trouve dans la situation de « tout ce que je peux faire, ça ne sert à rien ». L'individu sent que lui, comme être humain, n'a rien à modifier parce qu'il ne peut pas le faire. Et cet élément central qui a fini avec le projet révolutionnaire, c'est quelque chose qui doit être modifié et sur lequel nous devons lutter pour le modifier.
C'était Steve Earle, la révolution commence maintenant. Vous êtes à l'écoute des Chroniques Rebelles de Radio Liberté 89.4 et pour nous joindre au téléphone pendant les pauses musicales, 01 43 71 89 40.
Voilà, et donc nous parlons du numéro 17 de la revue Réfraction, Pouvoir et conflictualité, le politique, le sujet et l'action, lutte et révolte d'aujourd'hui. Donc dans ce numéro, vous pouvez évidemment trouver ce numéro à Publico, 145 rue Amelot. Il est juste devant l'entrée. Vous entrez, vous trouvez le numéro juste en face de vous. Voilà. Alors, on abordait justement la question de l'apathie qui est quand même centrale en ce qui concerne le monde d'aujourd'hui et donc de ce constat qu'on peut faire autour de nous, d'entendre des personnes qui disent « mais bon, ça y est, toutes les révolutions ont été trahies, comme disait tout à l'heure la chanson, les révolutions ont été tellement réprimées, elles sont mortes, elles ont avorté, etc. » Donc, bon, bah, qu'est-ce qu'on peut faire ? On ne peut plus rien faire. Comme si, quelque part, tout avait été tenté. Or, je ne sais pas, moi, peut-être je suis un peu trop volontariste, Eduardo, tu vas me dire, ou Annick, mais moi, j'ai l'impression que, effectivement, c'est vrai qu'il y a des expériences qui ont été très, très dures pendant le XXe siècle, mais il y a également des expériences qui ont été très, très belles, même si elles ne sont pas forcément bien terminées dans le XXe siècle, et que ça ne va pas se faire comme ça si rapidement que ça, quoi. Donc, il va falloir peut-être être plus patient et lutter beaucoup plus.
Ben oui, tu as raison, mais ça c'est notre position à nous, parce que nous croyons que la société doit être modifiée et que nous avons la possibilité de le faire. Même si cette possibilité était illusoire, il n'y a pas une autre, parce que dire que la société n'est pas modifiable est aussi illusoire que dire qu'il l'est.
Absolument.
De toute façon, dans cette position-là, le seul impératif moral, c'est de lutter pour le changer. Nous pensons que toutes les expériences vécues du siècle dernier dans les insurrections ouvrières ont été très, très importantes, mais sont des expériences qui ont fini dans la destruction des illusions.
Oui, sauf que si par exemple, regarde Eduardo, si on prend l'expérience en Espagne en 36, c'est une expérience extrêmement forte et qui a, en plus de ça, là où c'est très intéressant, c'est que c'est une expérience théorique et pratique immédiatement. Il y a eu vraiment des choses qui ont été mises en place, qui sont, même en regardant comme ça avec le temps, on est ébloui quelque part, on se dit mais c'est magnifique qu'il y ait eu cette espèce de spontanéité et en même temps de préparation, etc. Bon. Si on prend cette expérience qui, effectivement, malheureusement, s'est terminée avec le franquisme. Mais on ne peut pas dire... Enfin, moi, je ne peux pas dire que ça soit vraiment un échec. Je peux voir les erreurs qui ont été faites, qui ont fait qu'il y a eu, effectivement, cet élan contre-révolutionnaire, même à l'intérieur même de la révolution, avec je pense, notamment avec les bolcheviks, etc. Mais on ne peut pas dire que c'est quelque chose qui est loupé. On peut dire que c'est quelque chose qui a été cassé dans son élan, mais qui peut reprendre, par exemple, je pense à l'article de Danick Stevens, où là, on voit il y a des choses qui sont reprises de la révolution espagnole, et évidemment traduites différemment. On ne peut pas refaire exactement la même chose, mais on ne peut pas dire que c'est un échec.
Christian, tu as raison, mais tu as raison parce que toi, comme moi, on place l'expérience dans un projet de changement de la société. Tu la places dans le projet révolutionnaire. Et ce que nous sommes en train de vivre, ce qui a périclité dans les fins 30 années du siècle dernier, la dernière 30 années, c'est le projet même du changement révolutionnaire de la société. C'est ça que les gens ne croient plus. L'expérience que nous tous, anarchistes, nous avons vécu depuis l'adolescence qui a commencé à militer, c'est très joli, c'est très bien, mais on ne peut pas le faire. C'est-à-dire, l'idée était déjà présente. Mais après toutes ces expériences et après l'individu privatisé du néolibéralisme, nous nous trouvons dans une situation beaucoup plus globale du point de vue de la pensée unique, si on peut l'appeler comme ça, de cette position conquérante du néolibéralisme, pour laquelle tous les problèmes de la société civile sont des problèmes qui se lient à des conflits particuliers, à des conflits privatisés. C'est-à-dire les conflits centraux de la société, les conflits qui structure une société d'exploitation et de domination, disparaît. La question sociale disparaît. Tous les problèmes sociaux sont des problèmes entre groupes, sont des problèmes entre institutions, entre cultures, transformés entre problèmes entre des individus, c'est-à-dire des problèmes corporatifs. Et l'idée générale d'un changement global disparaît. Mais ça disparaît avec le libéralisme, mais il disparaît aussi de la théorie foucauldienne du pouvoir. Parce que le besoin de réduire les luttes aux luttes locales, c'est-à-dire que c'est l'expérience même de l'action qui détermine la possibilité de la lutte, fait que la lutte s'épuise en soi-même. Il n'y a pas de relais conceptuel qui l'amène à un niveau de lutte plus large dans laquelle la société doit être vue comme totalité pour pouvoir les changer. Si on veut, on parlait tout à l'heure avec Annick de ça, si on veut changer notre situation parce que nous la vivons en France à ce moment-là avec un processus électoral particulièrement dégoûtant aussi, si on le sait changer, on peut penser aussi qu'il faut lutter pour qu'en Oaxaca, au Mexique, les choses prennent une autre solution, un autre chemin. Il faut avoir une conception de du changement social. C'est ça, à mon avis, qui est fondamental. Et ce qui est pris dans différents, pour parler du numéro quand même, des différents articles de ces numéros, par exemple, dans l'article de Monique Moirot-Roulier sur les conflictualités, c'est l'élément central de sa réflexion, c'est que la tendance du néolibéralisme amène à l'abolition du politique. Le politique vu comme le lieu de l'expression du conflit social de base. Mais ce conflit social de base qui disparaît dans une division de la société qui de plus en plus est vu comme réduit à un seul niveau, c'est-à-dire qu'il a une opposition entre l'État, les politiques, l'État, la bureaucratie, les politiques d'un côté, la société civile, les marchés, l'économique de l'autre côté. Bon, il a une prééminence de plus en plus du côté économique de la société civile qui fait que le conflit central de la société, le conflit, la question sociale, disparaît. La domination disparaît et tout se transforme en des petits conflits entre les individus, comme on disait tout à l'heure. Ça amène à une vision de la société, Monique les analyse en fonction de la position de Habermas, de Renaud, de Gaucher, d'un point de vue critique, il utilise du point de vue positif Castoriadis ou Rancière, par exemple, ou Abensur, amène à cette dimension d'une démocratie apaisée dans laquelle les consensus...
Et voilà, le fameux consensus, celui-là, oui, voilà.
Et le niveau de politique vraie, de politique fondante, disparaît de ces sociétés qui continuent à être une société de privilèges, une société de classe, une société oligarchique.
Oui, mais alors, c'est ça qui est intéressant, parce que dans l'article justement de Monique Boireau-Rouillet, il y a cette analyse et elle dit finalement il faut déconstruire tout ça parce que c'est le seul moyen. Mais quand on regarde la société d'aujourd'hui, où effectivement, du côté des intellectuels, on voit cette espèce de bon, c'est le consensus, le problème social est complètement écarté ou alors mis dans une sphère privée, etc. Mais quand on va sur les lieux du travail, et qu'on fait les constats par rapport à ce qui se passe dans le travail. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un film qui a été fait dernièrement par Jean-Michel Carré, « J'ai mal au travail », qui montre tout à fait bien ce qui se passe. Il y a de plus en plus de stress, il y a de plus en plus de gens qui se suicident sur les lieux du travail. Donc c'est en complète, si tu veux, contradiction avec ce que disent les intellectuels, je veux dire les intellectuels médiatisés pour faire simple. Hein, c'est les intellectuels du pouvoir et ceux qui sont médiatisés, pour caricaturer un petit peu. Moi, je trouve ça, enfin, ce qu'on entend le plus souvent, parce que sinon, c'est les autres, on les entend de temps en temps, éventuellement. Mais c'est donc comment les gens voient bien ce qui se passe, parce que bon, toutes les personnes, tout le public ne sont pas des intellectuels. Donc, ces gens-là, ils voient bien comment ça se passe dans le travail. Donc, quels sont les moyens, les outils qui permettent... Alors moi, je vois par exemple la télévision, mais quels sont les outils qui permettent de mettre en place quelque chose qui est en totale contradiction avec ce qui se passe sur le terrain?
Oui, moi je pense aussi que ça nous force à faire une grande distinction entre ce qui se passe en Europe ou en Amérique du Nord, disons, et ce qui se passe dans des pays où le lien communautaire n'a pas été défait, c'est-à-dire où on ne part pas de l'individu qui se trouve seul face à son oppression, son harcèlement, etc., et qui n'arrive pas à reconstruire du collectif parce que les syndicats ne marchent pas, etc., pour diverses raisons. Donc, des pays où le lien communautaire n'a pas été détruit ou renaît, après avoir été détruit éventuellement par des périodes de dictature, mais renaît parce qu'il est beaucoup plus profond, il a des racines qui remontent très loin, et donc où ces communautés arrivent en fait à développer une véritable alternative, c'est-à-dire une alternative qui se donne comme politique, qui se donne comme décidant de toutes les sphères qui doivent être gérées collectivement, donc aussi bien économique que culturel, éducationnel, ce qui concerne la santé, enfin bref, tout. Et c'est en observant les conditions de possibilité de cette émergence, de cette prise en main du pouvoir politique, il me semble qu'on peut penser à comment essayer de créer ces conditions de possibilité ici. Hein, donc, je crois que la première condition de possibilité, et c'est ce que disait un observateur uruguayen très très intéressant de l'Amérique latine qui est Raoul Zibeschi, qui a d'ailleurs édité, il a été traduit en français d'ailleurs. Et donc ce que disait Zibeschi, c'est que la première condition, c'est ça, c'est refaire du lien social pour que les gens justement perdent cette impuissance qui vient en premier lieu du fait d'être isolés, d'être toujours des cas isolés. Il n'y a pas deux cas semblables, hein, notamment dans les questions de harcèlement ou dans les questions d'abus de pouvoir, etc. Et donc on n'arrive pas à faire du lien. Première chose, c'est que ce ne soit pas simplement une association qui vise un but précis, mais que ce soit un lien beaucoup plus profond qui, de toute façon, est là, même dans les cas où on n'en a pas besoin. Et je pense que là, bon, après, il y a d'autres conditions, mais cette première-là permet une prise de conscience collective. Et donc, je pense que voilà. Que
et quand il n'y ait plus, en plus de ça, ce problème qu'il y a, par exemple, vis-à-vis des syndicats, le problème de la délégation.
C'est-à-dire, voilà, exactement.
Moi, je peux rien faire. Bon, alors, tu vois, par exemple, on vient te trouver dans le travail, on te dit, mais que font les syndicats? Et moi, la réponse, c'est, mais les syndicats, c'est vous. C'est
exactement.
Moi, c'est tout le monde.
Oui. Et là aussi, ils ont intégré. Bon, c'est vrai que depuis qu'on a écrit ce numéro, il y a des articles qui sont déjà dépassés. Là, ceux qui parlaient de l'état, hein, du zapatisme, où il n'y avait pas eu encore les grands événements d'Oaxaca qui ont eu lieu cet automne. Bon, mais tout ça, en fait, c'est du nouveau qui ne fait que confirmer la tendance extrêmement libertaire de ces mouvements sociaux, en tout cas au Mexique, en tout cas ces deux principaux mouvements au Mexique, qui sont en train de tisser un réseau qui couvre l'ensemble du pays, plus seulement le Sud, et qui insiste vraiment sur le pouvoir d'assemblée, c'est-à-dire tout se décide en assemblée. Il y a régulièrement des tentatives de petits groupes politiques d'extrême gauche de prendre la direction du mouvement ou d'imposer des choses de manière plus...
L'avant-garde.
Voilà,
on connaît, comme d'habitude.
C'est sûr qu'ils reviennent régulièrement avec ça. Mmh. Et chaque fois, ils sont désavoués par l'Assemblée. Chaque fois, l'Assemblée dit non, là, vous allez trop loin, on refuse. Ou déconstruit même des décisions qui auraient été prises en trop petits comités. Donc, ce souci, en fait, de la décision assembléiste va vraiment est tout à fait dans le bon sens. Et ils arrivent à réaliser des choses extraordinaires. Quand on voit la société zapatiste règle elle-même tous les problèmes, depuis l'économique jusqu'au judiciaire, depuis tout ça. Alors évidemment, ils sont tout le temps en conflit avec l'extérieur, ils sont tout le temps attaqués, tout le temps agressés. L'État est très subtil parce qu'ils ont maintenant créé des comités qui s'appellent indigènes, mais qui sont en fait dépendants des partis. Et donc on monte indigène contre indigène. C'est évidemment le problème.
Mais ça indique, je veux dire, c'est...
C'est classique.
Voilà, c'est-à-dire, je dirais presque cette bonne guerre entre guillemets, voilà. en détestant évidemment cette expression, mais dans le sens, il est évident que le pouvoir dans le sens de domination, ne va jamais accepter une autonomie d'une population comme ça. Ça, c'est clair. Donc, mais c'est bien que ça continue parce que quand même, ça dure
gagne,
depuis un moment.
Ça gagne du terrain.
Ouais.
Et là, il y a une chose qui est très importante qui a dit Annick, c'est que les possibilités de ces luttes sont parce que les liens sociaux se maintiennent. Et ce que nous avons vu en Europe, après le totalitarisme en général, c'est la déliquescence de ces liens sociaux. Les liens sociaux disparaissent devant un individu privatisé. Et il est privatisé n'est pas seulement au niveau de l'individu de la bourgeoisie consumériste, c'est privatisé à niveau que l'ouvrier doit défendre son entreprise, parce que sinon, il perd sa possibilité de vivre, de manger. Cette façon de lier, d'attacher l'individu à la situation économique, à la situation de sa vie privatisée, de ses loisirs, de sa possibilité de consommer, c'est une façon qui annule tout lien social. Et à ce moment-là, les théories qui les laissent sans projet commun, qui les laissent sans la possibilité de voir qu'il a une dimension autre de l'action sociale, que sa liberté négative, que de là vient tout ça appelé la liberté de moderne, la liberté de ne pas être opprimé, en laissant de côté la liberté démocratique ou positive de pouvoir décider ensemble. Une fois que ça a disparu, l'individu est rien. Il est rien. Il n'a qu'une possibilité d'action.
D'où la société de marché de créer ce qu'ils appellent des tribus.
Oui.
Des tribus sur la musique, sur les vêtements, sur la mode, sur ceci, sur cela. Mmh. Ça aussi, c'est une manière de biaiser et de détourner complètement, justement, le lien social.
Une chose que critique Monique dans son article, la société civile, s'il était basé sur les associations de défense, il est à nouveau une société fragmentée et une société qui défend son propre type de choses sans voir, sans viser la relation pour laquelle chaque lutte locale est attaché, lié, intégré à une dimension politique globale de la société.
Oui, et c'est ce que défendent aussi les apatistes. Hein. En fait, c'est ce... je trouve que ce qui est le plus intéressant dans leur message, c'est qu'ils s'adressent au monde entier en disant nous avons tous en fait le même ennemi, qui est le capitalisme. Alors, bon, ils expliquent tous les mots, enfin dans tous les domaines en fait où ça intervient. Et donc, mais nous avons tous des situations différentes et nous avons tous aussi probablement des stratégies différentes à développer contre cet ennemi. Et donc, en fait, ils réconcilient de cette manière-là le local et le global en disant chacun est apatiste chez soi, mais d'une autre manière, évidemment. Et donc, avec un appel énorme à la créativité pour réagir de manière adéquate à sa propre situation, évidemment. Ce qui, à mon avis, est génial pour dépasser aussi un certain indigénisme, etc. Bon, c'est une révolte indigène là, mais qui est en fait complètement universalisable. Et je trouve que c'est important pour le moment de dire que le local peut être universalisable parce qu'on est un peu aussi dans une sorte de terrorisme intellectuel là contre l'universalisme. Bon, il y a cette espèce de relativisme culturel qui fait que on peut pas... on n'aurait plus de solidarité justement avec les luttes qui se passent ailleurs parce que chacune a sa particularité et même on devrait respecter ce qui nous semble choquant dans d'autres cultures, etc. Bon, je pense qu'il faut, vraiment pas tomber dans ce travers-là. Il faut se dire non, au contraire, quand les apatistes, bon, on pourrait prendre d'autres gens, mais je les connais moins ailleurs dans le monde, disent nous, on réclame la justice, la liberté et des choses comme ça, mais tout être humain va demander la justice et la liberté. Et je crois que c'est là qu'on peut... insister sur l'importance de l'article de Abansour, le bon usage de l'hypothèse de la servitude volontaire. Le bon usage, c'est de répéter qu'en fait, servitude volontaire, c'est une contradiction dans les termes. C'est une expression scandaleuse, dit-il. L'aboïcie disait, c'est scandaleux, parce que l'homme ne peut pas aimer la servitude. Et cette idée de retrouver que dans tout être humain, ce serait ça l'universel, le minimum, aussi ce que Chomsky appelle la nature humaine, ça peut faire un peu hérissé, mais non. Si on le considère justement comme un minimum, qui est cette aspiration à être libre, à décider de soi-même, est-ce qu'elle n'est pas inhérente à tout être humain dans quelque culture que ce soit. Donc je pense qu'on peut partir aussi de ce qu'il y a de commun comme aspiration.
Mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis là, et puis également le constat qu'on peut faire, c'est-à-dire que